Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus Floß. Ich will dich bloß.
Onde Femme. Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme, Radio Zone 93.8, c'est Remue Ménage, 17h-18h30. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Denise Gillian, réalisatrice du film Femme du No Future. Elles étaient punk dans les années 80. No Future était leur devise, l'autodestruction leur mode de vie. Aujourd'hui, elles ont 30 ans. Que sont-elles devenues? Comment ont-elles survécu? Existe-t-il en elles une volonté irrémédiable de destruction? Le film de Denise Gillian, c'est l'histoire d'une époque, celle des punks. Il relate l'évolution de Charlotte, Sandra et Patou. Et en 1980, elles niaient le futur avec colère et désespoir. Aujourd'hui, à leurs enfants, elles parlent d'avenir. Denise, le morceau que nous entendons là, c'est le générique de votre film, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est My Way des Sex Pistols.
Alors, Femme du No Future, Denise, c'est votre nouveau film, un film documentaire. Nous vous avions déjà reçu dans Remue Ménage, il y a de ça combien de temps? Le temps passe si vite, on ne sait jamais. Avec deux votre ans. Film précédent, c'était il y a 2 ans, qui était un film qui racontait cette rencontre entre son père et le père et une jeune femme qui avait pour titre Mon père, cet ange maudit, ce prisonnier en prison depuis longtemps et pour encore de nombreuses années lorsque vous avez fait votre film, peintre. En prison et que vous aviez d'abord vous rencontré pour en faire un portrait et ensuite cette rencontre entre la fille et le père. Alors aujourd'hui, une toute autre histoire pour ce nouveau film, mais un nouveau documentaire, pas de fiction. C'est visiblement un choix très important que vous faites de garder la forme du documentaire pour votre cinéma. Pourquoi c'est important ce choix, Denise?
Pour moi, le documentaire, c'est vraiment une façon d'aller fouiller dans la réalité, de pouvoir donner la parole à des gens qui existent, qui ont des destins qu'on n'a pas besoin d'inventer, qui sont bien là. Et c'est vrai que j'aime ce contact avec le réel, avec le vécu. Et la réalité regorge d'histoires merveilleuses. Donc pourquoi les écrire? C'est aussi une façon de donner la parole à des gens à qui on ne la donne pas d'habitude. C'est vrai que j'ai travaillé en prison maintenant avec des anciens punks. Donc donner la parole à des marginaux, à des gens qu'on exclut, pour moi c'est important aussi.
C'est une façon, d'une façon ou d'une autre, de dire ce que vous pensez de la réalité?
Alors, pas dans chaque film, évidemment, parce que c'est pas moi qui fais le contenu de ce que les gens disent, c'est bien eux qui témoignent de leur propre vie. Donc, je suis pas toujours totalement d'accord avec ce que disent.
Mais choisir de donner la parole à des marginaux, c'est un choix personnel quand même, d'une certaine façon.
Ah, c'est sûr, oui. Bien sûr, c'est une façon de faire passer un certain nombre de messages. Ou plutôt d'attirer l'attention sur des choses dont on ne parle pas. hein, tout ce que, notamment en prison, c'était le cumul de peines. Avec les femmes punk, c'est l'autodestruction. Enfin, généralement, c'est des sujets qui font peur, par rapport auxquels les gens préfèrent fermer les yeux. Donc c'est vrai que moi, je vais là où d'habitude, on ne donne pas la parole.
Justement, c'est quand les gens en ont peur et on préfère fermer les yeux. Alors, est-ce à dire que quand vous avez fait des propositions de films comme ça, par exemple, ou si le thème effarouchait ceux qui, d'habitude, soutiennent, en tout cas financièrement, la réalisation de ces films, est-ce qu'on vous a dit, mais c'est un thème qui intéresse personne, ou bien pourquoi traiter ça? Enfin, surpris de vos choix.
Surpris de mes choix, peut-être, oui, mais on ne m'a jamais dit, c'est un thème qui n'intéresse personne. Non, je n'ai pas été confrontée à ce type de problème. Je suis plutôt confrontée à des questions du style, mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses toujours à des sujets compliqués? Qu'est-ce que tu vas faire une année, deux ans en prison? Quel intérêt est-ce qu'il y a?
Et alors vous répondez quoi dans ces cas-là?
Bon, moi j'adore, je réponds que j'ai une chance extraordinaire, je peux aller où je veux, quand je veux. Le documentaire c'est une sorte de talisman aussi, une sorte de porte d'entrée partout. Hein, c'est vrai qu'on peut aller frapper à la porte d'un pénitencier, enfin pas directement, il faut un certain nombre d'autorisations, mais pour aller y faire des interviews, alors qu'en tant que simple visiteur, c'est nettement plus compliqué.
Donc en fait, votre caméra est une sorte de laissez-passer pour des rencontres qui vous semblent extrêmement importantes, à vous aussi personnellement, pas seulement pour les gens qui vont regarder votre film plus tard.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous avez des souvenirs, par exemple, dans vos tournages, si on prend le nouveau film dont nous allons parler aujourd'hui, « Femmes du No Future », cette histoire de ces trois jeunes femmes punk dans les années 70-80, et puis, ou bien peut-être « Mon père, cet ange maudit », qui sont des moments très précieux pour vous, que vous gardez comme des pierres blanches, comme ça, à travers votre travail cinématographique.
Oui, il y en a beaucoup.
Prenons le dernier, alors, puis c'est celui dont nous allons parler, peut-être.
Le dernier concerne encore un autre film, donc je vais peut-être remonter à Femmes du No Future.
Oh là là, mais vous travaillez beaucoup.
Oui, j'enchaîne vite, j'en ai besoin. Un moment magique sur Femmes du No Future. Je ne sais pas, il y a les retrouvailles, par exemple, ces trois femmes ne s'étaient pas vues depuis 15 ans, alors qu'elles se connaissaient, qu'elles étaient amies avant. Donc il y a des moments de grâce comme ça, où quand elles se retrouvent à travers le film, hein, c'est quelque chose qu'on leur amène, qu'elles n'auraient pas vécu autrement. Donc c'est vrai que c'est une façon aussi de faire plaisir à des gens. Des petits bonheurs comme ça qu'on peut amener à travers le cinéma et l'ambiance d'un tournage. Ou des prises de conscience que des gens font. Hein, comme dans le questionnement, je vais souvent assez loin quand même. Donc tout d'un coup, il y a un déclic qui s'opère. Ah mais voilà, je viens de comprendre. Je ne sais pas, peut-être là, en l'occurrence, le phénomène de l'autodestruction, au fil des conversations, qui ont duré quand même 6 mois, hein, avant le début du tournage. C'est vrai qu'il y a eu plein de déclics qui se sont opérés pour chacune des trois, qui étaient des cadeaux, enfin, qui étaient des espèces de petits moments de grâce, comme ça.
Et tout à fait à l'opposé, des moments très difficiles. Vous vous êtes dit, je me suis approchée, là, comme ça, d'une chose qui brûle, attention.
Oui, alors ça, de par le choix du sujet de ce dernier film, hein, de parler de l'autodestruction féminine mise en rapport avec la maternité et d'aller chercher quelque part dans mon propre passé, étant donné que je tournais à Lausanne, hein, qui était la ville où moi aussi j'ai passé mon adolescence, que j'avais des contacts adolescentes avec des punks, c'est vrai que j'ai là touché un domaine qui m'était très personnel, ce que j'avais encore jamais fait. Donc il y a eu des moments en cours de préparation et sur le tournage où je me suis dit « Oh là là, plus jamais je fais un film qui me touche d'une façon aussi proche » parce que c'est vrai que c'est une façon de se brûler aussi, de se remettre en question sans arrêt. C'était un peu épuisant.
J'aimerais bien qu'on revienne à ça tout à l'heure, mais peut-être pour encore préciser ce choix du documentaire, c'est vous qui posez les questions. Vous êtes réalisatrice et vous posez les questions durant le film, qui est quand même une série de portraits prioritairement, et où les images vont entourer la vie de chacune de ces trois jeunes femmes. C'est en même temps un métier de journaliste, c'est beaucoup de capacités en même temps. C'est pas difficile des fois de mener tout, l'attention aux images, aux questions, etc. C'est beaucoup de fonctions.
Alors, je dirais plus qu'un métier de journaliste, je crois que c'est plutôt un métier de relations humaines, simplement. Hein, je commence jamais à tourner tant qu'il n'y a pas une réelle confiance entre moi et les gens que je vais interviewer. Je passe beaucoup de temps en préparation, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a un acquis humain, simplement, qui est très fort, avant que la caméra soit déclenchée. Bon, tournage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mener de front, mais ça, je crois que de toute façon, c'est la réalité de ce type de métier, de tous les tournages, qu'on pose les questions ou pas. Et d'autre part, tous mes films reposent sur ce que disent les gens d'eux-mêmes. Ce qui veut dire que je pourrais en aucun cas accepter de déléguer ce questionnement à quelqu'un d'autre. J'arriverai pas. Mes films reposent vraiment là-dessus. C'est la trame sur laquelle, comme vous dites, après, je viens graver des images que je viens illustrer.
Vous espérez aussi que vos films suscitent une réflexion chez les gens qui vont les voir, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un témoignage, un portrait, mais ça doit aussi susciter chez les gens qui vont les regarder une réflexion sur peut-être un moment de vie passée ou des sujets qui peuvent les toucher en miroir.
Je dirais que c'est ma principale motivation. Je ne fais pas des films pour le plaisir du cinéma. Je les fais, je crois, avant tout pour susciter des réactions, des réflexions, des réactions.
Des sujets comme celui que vous venez de réaliser, enfin non, puisque vous dites qu'il y en a un autre entre-temps, mais « Femme du No Future » comme « Mon père, cet ange maudit » aurait pu être réalisé dans le cadre d'un magazine télévisé, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait préférer faire du film ? Est-ce que c'est une question technique, strictement parce qu'à la télé, il n'y a pas de possibilité, enfin, j'en sais rien. Ou bien c'est un choix particulier, le film, le cinéma ?
Alors... Bon, je le nuancerai un tout petit peu autrement, parce que là, en l'occurrence, le choix est de travailler en indépendante, donc en dehors de la structure de télévision, ce qui ne m'empêche pas de tourner avec des formats de télévision comme la vidéo. Je n'ai pas fait le choix du film en tant que tel. Par contre, c'est vrai que j'ai fait le choix de travailler en indépendante, de telle façon à pouvoir consacrer à mes films le temps que je désire. C'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à faire ce genre de sujet dans une structure qui m'impose, je ne sais pas, un seul mois de préparation, alors que j'ai l'impression d'avoir besoin d'un petit peu plus de temps avec les protagonistes. Ouais, j'aime pouvoir gérer la relation aux gens, en fait, à notre rythme, sans dépendre de structure.
Vous disiez 6 mois de préparation, de rencontre avec Patou, Sandra et Charlotte. Et plus le tournage, et le montage, etc. C'est la réalisation d'un film, c'est combien de temps environ, à votre rythme ?
Mon Femme du No Future, c'est environ 1 année. Mon père, cet ange maudit, ça avait été plus long. Ça avait été échelonné sur 3 années, bon, tout en faisant d'autres choses à côté. Puis celui que je suis en train de faire maintenant va être fait en 7-8 mois. Donc ça dépend de nouveau chaque fois des sujets, de la difficulté rencontrée. Femme du No Future, c'était assez long aussi au départ. C'était pas évident de retrouver des gens qui étaient punks dans les années 80 en Suisse romande. J'avais pas d'adresse et en plus les punks avaient tous des surnoms. Donc on connaissait Ordure, Bébert, Patou, Charlotte, Miss Dégueulon, etc. Mais derrière, les vrais noms, personne ne les connaissait finalement. Donc c'est vrai que là, c'était déjà 2-3 mois de recherche simplement pour savoir comment ils s'appelaient vraiment et ce qu'ils étaient devenus, reprendre contact.
Alors ça, c'est une série de messages de bouche à oreille. On a envie de retrouver tel ou tel, tu sais ce qu'il est devenu, etc. C'est comme ça que vous fonctionnez ?
C'est ça, oui. en parlant au maximum autour de moi.
Alors, vous avez choisi de travailler pour ce film sur les punks. Alors, pourquoi les punks en particulier ? Bon, vous disiez, ça correspond à votre adolescence, mais dans les années, c'est quoi, 76, 80, c'est ça, à peu
oui,
près
c'est
les
ça.
Années
ouais.
concernées. Hein. Il y a eu aussi d'autres choses que les punks. Pourquoi choisir les punks en particulier ? Alors, et les femmes, peut-être, aussi plus précisément.
Alors, l'envie, d'abord, c'est effectivement de travailler avec les punks. Les femmes, c'est intervenu plus tard. Le choix de travailler avec des punks, je crois que pour moi, c'était le groupe le plus représentatif de ces années-là, qui étaient quand même des années assez noires. Hein, il y avait, c'était aussi les années Lausanne bouge, enfin, grosse révolte de jeunes, crise économique. Je crois que de façon générale, chez les adolescents, il y avait une vision assez noire de l'avenir et des choses. Je ne sais pas, c'était aussi l'époque de toute la vague de divorces. Hein, après les années 68, libération des mœurs, etc. Dans les écoles que j'ai traversées, je me souviens que par classe, il y avait peut-être 2 personnes qui avaient encore des parents unis. Enfin bon, donc on avait tous une vision, je crois, assez noire des choses. Et les punks me semblaient les plus représentatifs de ça, parce que les plus extrêmes aussi. D'autre part, pour un film, je trouvais très intéressant parce qu'ils ont, ils sont spectaculaires. Ils ont un look, ils ont une musique, ils ont un graphisme qui leur appartient. Ils sont représentatifs à plusieurs niveaux, en fait, de cette génération-là.
Mais ils ont marqué, à votre avis, un pays comme la Suisse romande, enfin, pour, puisque vous avez travaillé sur Lausanne principalement, mais ça a été un moment des gens qui ont marqué la vie d'une cité comme Lausanne, puisqu'on parle de Lausanne.
Oui, très fortement. Ils n'étaient pas très nombreux, mais c'est vrai que tous les Lausannois se souviennent de ce groupe de punk. Bon, là, en l'occurrence, ils étaient sur la fontaine de la Palue, à Zonay, et ça a duré 2-3 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est des gens qui faisaient plutôt peur, hein, de par leur accoutrement et attitude agressive, souvent. Provocateur en tout cas. Donc, comme il faisait peur, les gens ne s'en approchaient pas. Donc, finalement, ils sont restés méconnus. Hein, quand on demande, juste avant le film, je me suis amusée comme ça à demander aux gens, un peu de toute génération, mais les punks, c'est quoi pour vous? J'avais pas beaucoup de réponses, si ce n'est que les gens font une description physique ou musicale de.
Personne n'aurait eu l'idée de dire ce qu'une des trois femmes, je ne me rappelle plus laquelle, dit à un moment donné, qui m'a beaucoup frappée. Nous avions peur, donc nous faisions peur.
Oui, non, personne n'a cette idée-là. Et je trouve très jolie cette phrase.
Ah oui, elle est très forte. Ouais. Mais elle est très symbolique, effectivement, du contenu, de ce que vivaient les de ces jeunes-là à ce moment-là.
Oui.
C'est aussi ce qui vous a attiré. Vous aviez déjà un peu compris ce qui se passait dans leur tête, et parce que vous étiez proche d'eux d'une certaine façon.
Oui.
Parce que l'histoire de l'autodestruction, l'histoire du rejet du système dans lequel ils vivaient, tout ça, c'est une chose qui vous a concerné à un moment donné?
Alors, la révolte, le rejet, oui, c'est quelque chose qui m'a concerné de très près. Par contre, je n'ai jamais porté l'uniforme punk. Hein, je n'ai jamais eu besoin de m'identifier comme ça au niveau du look, à un mouvement. L'autodestruction m'a un petit peu moins concernée, par contre m'a touchée de près à travers des amis ou amies. Mais j'ai pas fait ce film pour retrouver mon propre passé, mais bien pour témoigner de problèmes de ma génération.
Parce que si vous évoquiez Lausanne Bouge, quand même, effectivement, dans Lausanne Bouge, ça a réuni une foule de jeunes très diverses qui, à un moment donné, voulaient des lieux pour eux, pour s'exprimer, etc. Et se sont trouvés à devoir s'affronter avec des forces de police importantes. Chose qui ne se passait pas forcément dans toutes les villes comme ça. À Genève, c'était passé beaucoup plus en souplesse. À Zurich, encore pire, avec des balles en caoutchouc. Enfin, il y avait des réactions très différentes selon les villes. Et donc, les punks se sont trouvés à un moment donné aux côtés d'autres jeunes. Est-ce que vous vous rappelez de cette confrontation et comment, y compris par rapport aux autres jeunes, les punks étaient perçus?
Oui, alors les punks étaient très nihilistes, hein, et ne croyant en rien, ils n'étaient pas militants du tout. Ce qui veut dire qu'ils étaient là pendant les manifestations où ils habitaient le centre autonome, une fois qu'on a obtenu le centre autonome, mais sans aucun discours militant. Donc, ils dérangeaient, même au sein de la population jeune, qui, elle, se battait parce qu'elle croyait quand même, d'une façon ou d'une autre, en un avenir proche. Les punks étaient dérangeants là aussi, parce qu'ils ne croyaient en rien, mais profitaient de toute situation. Je le dis avec beaucoup d'amitié.
Et puis, alors, se sont rajoutées, vous avez dit, les femmes, sur cette idée de parler de ce mouvement punk. Alors, pourquoi les femmes?
Alors, au moment où je démarrais l'écriture du scénario, je suis allée dans un concert rock à Paris. Et je vois une femme, punk, débarquer. Elle avait la trentaine, 30-35 ans. Un bel iroquois, le cuir, enfin, tout l'accoutrement. Elle s'approchait de face, elle a passé devant moi, elle s'est éloignée. J'ai vu que sur son perfecto, il était écrit « No future ». Et en fait, quand elle s'est éloignée de dos, j'ai remarqué qu'elle tenait un enfant par la main, qui devait avoir 2-3 ans, il marchait à peine. Et lui aussi avait la petite crête rouge, le perfecto et le slogan « No future » sur son cuir. Et là, ça m'a fait un déclic, c'était une image extrêmement forte. Et je me suis dit, mais c'est vrai, toutes ces femmes qui ont prôné la destruction, qui sont autodétruites ou qui en tout cas n'ont jamais cru en l'avenir, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce que les punks que moi je connaissais ont eu des enfants? Et que signifie cette contradiction, hein, de pouvoir dire à la fois nos futurs et faire des bébés? Donc je me suis dit, oui, la devise finalement nos futurs est beaucoup plus intéressante du point de vue de la femme et de la maternité. Donc là, je me suis complètement recentrée en décidant de ne travailler qu'avec des femmes punks.
Et est-ce que ce fut encore plus dur de trouver des femmes punk qui avaient eu des enfants? En l'occurrence, bon, parmi les trois femmes qui vont témoigner dans ce film, Patou, Sandra et Charlotte, deux ont des enfants, Sandra n'en a pas. C'était difficile ou elles sont des exceptions? Ou au contraire, plusieurs ont fait ce cheminement-là?
Non, alors elles ne sont pas du tout exceptionnelles. Plusieurs ont fait le choix d'avoir des vies de famille et d'avoir des enfants. Bon, quelques-unes sont restées très virulentes hein, par rapport aux nos futurs. Mais une chose qui m'a frappée, c'est que je n'ai rencontré... J'aimerais pas non plus généraliser, hein, parce que je n'ai pas fait de statistiques. Mais je n'ai jamais rencontré une femme punk ayant choisi en toute sérénité d'avoir un enfant. Hein, Patou et Charlotte, dans le film, le disent d'ailleurs. Elles ont eu des enfants par accident et ont choisi de les garder. Elles sont ravies maintenant d'être maman. Mais ça n'a jamais été un choix serein.
C'était encore les Sex Pistols que nous a amené Denise Gillan, la réalisatrice du film « Femmes du No Futur », un documentaire qui donne la parole à trois jeunes femmes, aujourd'hui 30 ans, Sandra, Charlotte et Patou, trois jeunes femmes punk dans les années 76-80 à Lausanne. Lausanne qui est aussi la ville où vivait à ce moment-là en tant que jeune Denise Gillan. Alors Denise, vous nous avez expliqué pourquoi ce choix du documentaire, pourquoi choisir de parler des punks et des femmes en particulier, ce lien avec la maternité, c'est-à-dire cette opposition, entre autres due à cette image délirante dont vous nous avez parlé, une jeune femme punk, No Future, crête sur la tête, avec un gamin à la main, qui est évidemment toute l'image opposée du non-futur. Alors, peut-être qu'on pourrait essayer de faire un portrait de vos trois jeunes femmes. Parce qu'en tout cas, moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est qu'elles acceptent pour vous de ressortir leurs vieux habits de punk qu'elles ont toutes les trois à garder. On arrive retro, chacune, elle vous montre un vêtement. Il y a plus ou moins l'attirail chez les trois. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas jeté à la poubelle le jour où elles ont décidé de changer, pour certaines d'entre elles, radicalement, tout de suite. Ça n'a pas pris un long cheminement. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être essayer chacune à tour de rôle d'en parler d'une. Ça donnera des images différentes, vous qui les connaissez très bien, moi qui les ai découvertes au travers de ce film. Alors, comment vous décririez Sandra, par exemple?
Alors, Sandra, je vais essayer de faire un portrait pas trop réducteur. C'est toujours difficile de faire le portrait de quelqu'un. Ah bon, Sandra est noiraude, les cheveux courts, un regard bleu perçant, très clair. Elle ne se maquille pas, elle a gardé de ses années punk des vêtements noirs. Elle ne s'habille qu'en noir, tous les jours.
On peut dire que c'est presque toutes les trois, ça, en tout cas, au vu des images que vous montrez dans votre film.
Oui, Charlotte moins. Charlotte revêt de temps en temps des couleurs gaies, mais Sandra, jamais. Elle a gardé ça, elle n'a pas gardé par contre de traces physiques, hein, ni tatouages, ni boucles d'oreilles, ni cicatrice. C'est une jeune femme qui a toujours eu une énergie, je dirais, démentielle. Déjà au moment où elle était punk, elle avait de l'énergie pour faire de la peinture, des concerts. Elle a toujours mené de front comme ça énormément d'activités. Et pour la situer peut-être un tout petit peu psychologiquement, elle avait, c'est ce qu'elle dit dans le film, une mère alcoolique. Sandra elle-même a commencé à boire à l'âge de 11-12 ans pour chasser la peur, parce que quand sa mère était saoule, sa mère lui faisait peur. Donc Sandra est devenue alcoolique à 12-13 ans. Et la suite, en fait, son adhésion au mouvement punk et cette longue période d'autodestruction découle de ça. Quand elle avait, je sais pas, 20-21 ans, dans ces eaux-là, elle a voulu s'en sortir. Et à ce moment-là, toute cette énergie qu'elle mettait dans l'autodestruction, elle l'a mise dans la créativité. Donc à partir de là, elle a fait les beaux-arts. Elle travaille maintenant comme graphiste chez Guiguerre, qui est aussi d'ailleurs, ça m'a surprise, la première fois que je l'ai rencontrée, Guiguerre a un univers aussi très noir. Hein, lui-même ne s'habille qu'en noir. Et, bon, on connaît ses œuvres, La Mutante, Alien, etc.
Voilà, c'est monstre de tout genre.
Oui. Donc quelque part, Sandra a mis maintenant son énergie dans la créativité. Elle fait du design, de la peinture, toujours de la musique dans deux groupes différents. Elle ne boit plus une goutte d'alcool. Enfin, elle a une belle santé, comme ça, une énergie de vie extrêmement positive actuellement.
Alors, j'oserais pas faire les portraits des deux autres. Après ce que vous venez de dire, vous les connaissez trop bien. C'est à vous, je crois, de faire les portraits des deux autres. Parce que ce que j'ai pu percevoir dans le film, c'est tellement... je n'arriverai pas à les relier aussi bien que vous. Alors, ayez la gentillesse de faire le portrait des deux autres.
Alors, Charlotte, elle vit maintenant à la montagne. Je l'ai re-rencontrée après 15 ans pour la première fois dans un tout petit chalet adorable en bois, tout sculpté à l'ancienne, dans la région de Châteaudet. Donc un paysage un peu plus bucolique, avec les vaches dans le pré, un petit village, je ne sais pas, qui doit avoir 60-70 maisons. Donc elle s'est complètement retirée. Elle vit avec son mari, Robin, et son fils, Alexander, qui avait 4 ans quand on a tourné.
Donc et Robin et Alexander, qu'elle a eu ou rencontré en Australie, si j'ai bien compris.
Voilà. Donc le parcours de Charlotte, ça a été... elle a grandi dans une famille suisse... tout à fait agréable et standard, je dirais, sans minimiser, hein, mais une enfance assez confortable. Et c'était un peu le vilain petit canard de la famille, Charlotte. C'était la plus petite, la plus jeune, toute une cliquée de frères et sœurs. Elle n'a jamais vraiment aimé l'école et les contraintes. Donc très très vite, en fait, elle s'est mise à fréquenter une population marginale, en l'occurrence les punks. Ça l'amusait follement, c'était quelqu'un qui adorait faire la fête. Alors Charlotte se différencie totalement des deux autres, parce qu'elle a commencé à s'autodétruire par inconscience. En fait, en faisant la fête, elle voulait rire, elle adorait rire, elle a commencé à toucher à l'héroïne et à d'autres...
Elle voulait essayer, quoi.
Elle voulait essayer, elle ne s'est pas rendue compte, elle s'est fait piéger. Alors, physiquement, c'est une femme de 30 ans, toute ronde, qui a gardé, elle, par contre, alors pas mal de marques physiques de ses années punk. Elle a des tatouages partout, elle adore encore les tatouages, elle continue à s'en faire. Elle a toute une alignée de boucles d'oreilles, je ne sais pas, 15 boucles d'oreilles à la même oreille encore. Elle ne se maquille plus, par contre, toujours les cheveux courts, brunes. Et quand elle a voulu sortir justement de ses années de dope, d'autodestruction, elle a quitté la Suisse et elle est partie en Australie, rejoindre son frère en fait, qui vivait depuis quelques années. Elle s'est désintoxiquée en Australie, elle y a vécu 5 ans. Et c'est en Australie qu'elle a rencontré Robin, qui est devenu son mari, et qu'elle a donné vie à Alexander.
My name is Malcolm McLaren. I have brought you many things in my time, but the most successful of all was an invention of mine they called punk rock. Let me start from the beginning. Find yourself four kids. Make sure they hate each other. Make sure.